Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la surveillance étatique, à la surveillance commerciale, à la surveillance globale. Et pour parler de cette problématique éminemment actuelle, nous sommes avec Marco, communiste libertaire et apprenti geek, et bon connaisseur de ces questions. Bonjour Marco.
Bonjour.
Alors, on a déjà réalisé une autre émission avec toi en parallèle qui parlait du capitalisme de plateforme et du travail à l'ère du capitalisme numérique. Alors évidemment, il y a des connexions quand même avec ce sujet-là. Alors, est-ce qu'on peut évidemment commencer par ce qui est fait l'actualité militante, c'est-à-dire la surveillance étatique?
Alors, le lien, il est tout tracé. On a parlé la dernière fois de surveillance au travail. La technologie, là, elle était mobilisée comme un moyen de domination qui permettait d'exercer un pouvoir sur le lieu de travail. Bon, évidemment, cette surveillance, qui est permise par ces techniques, elle ne s'arrête pas aux portes du lieu de travail. Elle s'exerce aussi partout ailleurs. Pourquoi ça ? Parce que le numérique, toutes les technologies qui vont avec, donc Internet, les machines qui font tourner nos ordinateurs, elles ont vraiment été designées dans leur cœur pour conserver tout ce qui est passé à travers. Alors, je veux dire, pas tout le contenu, mais conserver une trace de tous les événements. Et ce n'est pas du tout une fatalité. On peut complètement imaginer un autre Internet qui n'est pas du tout défini par ça. Mais bon, en l'occurrence, c'est le cas et on va essayer de voir un petit peu ce que c'est que les intérêts qu'il y a derrière. Donc, ok, surveillance, si c'est pas simplement sur le lieu de travail, c'est où ? Alors, la première de ces surveillances-là, ça va être la surveillance qui est exercée par l'État. Et tout à l'heure, on va voir un autre type de surveillance qui est une surveillance marchande, une surveillance par le secteur privé. Alors, je te propose un petit jeu pour commencer. On peut faire le tour de tous les ordinateurs, de toutes les machines informatiques qu'on a croisées dans la journée. Alors, par exemple, toi, si tu dois retracer là ta journée, depuis le moment où tu t'es levé jusqu'à maintenant où on est en train de tourner l'émission, est-ce que tu es capable de me dire combien d'ordinateurs et lesquels tu as croisés ?
J'ai croisé le mien, et puis après j'ai dû croiser celui de ma sœur, et puis celui de ma copine.
D'accord, donc là tu étais chez toi, c'était dans le foyer, c'est ça, dans la maison. Ok, trois ordinateurs. Est-ce que tu as pris le métro par exemple ?
Oui.
Ouais, donc tu as bipé ou tu as passé un ticket sur une borne, ça c'était un ordinateur. Du coup, tu n'as pas la même relation avec lui si tu as passé le ticket ou si tu as bipé avec ton pass. Est-ce que tu es passé devant des caméras ? J'imagine, si tu es passé devant le métro.
Oui, j'imagine.
Ouais, moi aussi, là, rien qu'en marchant pour venir ici. J'en ai croisé pas mal. Alors, il doit sûrement y en avoir d'autres, mais auxquels je pense pas, là. Mon ordinateur, parce que t'es juste à côté. Ta voix peut être captée par l'ordinateur. Il est pas tout à fait orienté vers toi, mais dès que tu passeras devant, potentiellement ton image aussi. Donc, ça commence à faire vraiment beaucoup. Là-dedans, il y en a pas beaucoup qui t'appartiennent, que toi, tu contrôles directement. Il y a ton ordinateur à toi, personnel, et ton téléphone. Et encore, est-ce que tu penses que t'as vraiment énormément de contrôle là-dessus ?
Non.
Et c'est un peu ça le problème. Moi, tout apprenti geek que je considère être, je rame aussi encore énormément à essayer de savoir quelles informations fuitent par les machines que je contrôle, de quelle manière, qu'est-ce que les dispositifs techniques que j'utilise connaissent sur moi. Et en fait, on est à peu près tous dans cette situation-là. Donc, c'est intéressant d'en prendre conscience parce que chacun de ces terminaux numériques, chacune de ces machines, ça va être un point d'entrée potentiel pour un contrôle, pour un pouvoir qui va s'exercer. Donc tu vois, ce petit jeu, c'est un bon moyen de sensibilisation pour se rendre compte de ça. C'est un hacker pour lequel j'ai beaucoup d'affection, qui s'appelle Lunar, qui m'a suggéré ça. Et tu vois à quel point notre vie quotidienne, là, elle est quadrillée par ces dispositifs. du moment où on se lève, peut-être avec une alarme sur ton téléphone d'ailleurs, qu'au moment où tu te couches, on en a vraiment partout autour de nous. En fait, un des principaux intérêts qu'il y a derrière l'exploitation des données qui sont produites par tous ces dispositifs, c'est évidemment le contrôle politique de l'État. Alors, du renseignement, il y en avait avant. Les services secrets, ils ont toujours très bien bossé, même sans machines ultra high-tech. Alors là, évidemment, tous ces ordinateurs, ils vont pouvoir prolonger cette surveillance-là. Donc, c'est un souci direct pour les militants. Évidemment, les actifs qui sont engagés dans les activités les moins légales et qui risquent le plus la répression. Donc, on a vu ça, par exemple, pendant la loi travail. Il y avait des militants qui devaient s'y rendre, avec le caouet, avec la capuche, avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir être discret sur place et du coup avoir la liberté qui leur permettrait de créer un affrontement. Et en fait, ces militants-là, ils ont été interceptés en amont de la manif parce que simplement, ils s'étaient donné rendez-vous quelques minutes avant sur le téléphone portable devant le métro à une certaine heure. Donc, l'interception de la communication, parce qu'ils étaient sous surveillance, a permis d'intercepter directement les personnes avant qu'elles se rendent sur la manif. Bon, mais ça, c'est du travail assez classique de renseignement. C'est juste qu'il a été un petit peu facilité. Alors, il n'y a pas que les téléphones portables. Maintenant, avec la loi de surveillance qui a été adoptée il y a peu de temps, on a légalisé des choses qui se faisaient en fait auparavant, mais qui n'étaient pas légales. Donc maintenant, c'est dans la loi. Les intrusions directes sur l'ordinateur, l'accès au disque dur, la surveillance de l'activité de l'utilisateur dessus, l'activation des caméras et des micros des dispositifs. Donc c'est toujours bon de rappeler qu'il est possible d'activer le micro d'un téléphone portable même quand il est éteint. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'à retirer la batterie pour être sûr de ne livrer aucune donnée liée à ça. Il est possible de géolocaliser aussi à partir des téléphones portables. Et la loi de surveillance, elle a légalisé l'utilisation des IMSI catchers. Ces IMSI, c'était des valises. En fait, illustrer ça concrètement, t'imagines une situation de manifestation, tu veux savoir, toi tu travailles dans le renseignement, tu veux savoir qui est dans cette manif, bon, il y a d'autres moyens pour ça, on prend des photos, on observe, et tu veux savoir quelles sont les communications qui s'y font, est-ce qu'il y a un truc qui s'y prépare, et est-ce que tu peux pas avoir un petit peu plus d'informations sur les gens qui sont là que simplement leur portrait ou leur identité. Et tu vas discrètement ouvrir une petite valise, dans une voiture, dans un camion, cette valise, elle va mimer une antenne relais de téléphone. Donc tous les téléphones qui sont dans la zone, ils vont se connecter à cette antenne en se disant « Ah, ça, c'est la nouvelle antenne à laquelle il faut que je me connecte », comme celles qui sont sur le toit des immeubles.
C'est automatique ?
Oui, voilà, en fait, les téléphones basculent automatiquement dessus. Bon, il faut une petite astuce pour ça, parce que je crois que quand tu es connecté en réseau 3G ou 4G, c'est pas automatique, mais bon, bref, les moyens développés font qu'on force les téléphones à basculer dessus. Et une fois que ton téléphone est connecté à cette machine-là, elle va pouvoir absorber tous tes contacts, les SMS échangés, les appels passés, elle a accès à un tas de données sur ce que tu as fait. Donc voilà, là on a quelque chose qui est très problématique en termes de surveillance des activistes, surveillance des militants. Ça peut aller assez loin, ça facilite énormément le travail du renseignement. Bon, mais ça en fait c'est une tendance qui était une tendance de long terme et qu'on connaît déjà assez bien. Ce qui est beaucoup plus surprenant, ce à quoi on s'attendait vraiment peu, à cette échelle-là, c'est vraiment la surveillance de masse. Et ce qui va avec, la répression préventive. Ça, on l'a appris qu'en fait, on était tous sous surveillance avec le scandale très très connu, celui de la révélation des documents d'Edward Snowden en 2013. En fait, cette surveillance, elle touche pas simplement les plus activistes, elle s'étend à l'ensemble des communications. C'est une surveillance qui est de masse, aveugle, qui prend tout dans ses filets et qui ensuite permet de faire le tri pour identifier des personnes en particulier, repérer des motifs de comportement, etc. Et donc, la NSA, elle plaçait des boîtes noires sur les dorsales d'Internet, c'est-à-dire ces énormes tuyaux qui traversent les océans et qui permettent à Internet d'être mondial, qui permettent que ce ne soit pas simplement quelque chose qui est limité à un pays ou à une région. Donc, elle a placé ces boîtes noires sur ses dorsales et là-dessus, elle absorbait tout le flux et ça lui permettait de capter énormément de choses. Donc, ça permettait de faire des trucs qui étaient choquants, mais pas politiquement directement problématiques. C'est-à-dire, par exemple, il captait une grande partie du flux de conversation par webcam. Alors, pas pour, ou du moins, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça n'avait pas l'air d'être simplement pour identifier des opposants politiques ou quoi. C'était pour faire enregistrer des captures d'écran des conversations, donc enregistrer le visage des personnes qui sont devant leur webcam, et à partir de ça, faire tourner des algorithmes de reconnaissance faciale pour les entraîner. Bon, là, ça a l'air un petit peu, c'est problématique, mais tu vois ce que ça peut donner en termes d'espionnage de masse, en termes d'identification de personnes recherchées ou autre. Autre chose, la NSA, elle captait énormément de données, de mails échangés, de contacts, d'adresses de contacts des boîtes mail, de communication en général sur les réseaux sociaux. Et en fait, comme elle a cette capacité tentaculaire d'absorber des données qui viennent d'une multitude de sources, les boîtes mail, les réseaux, de croiser ça avec ce qu'elle a sur d'autres personnes, etc. Ça lui permet encore de construire, de reconstituer en détail la vie sociale d'une personne. Alors, dans le cas de la surveillance par webcam, c'est très embêtant pour notre vie privée, mais si elle ne sait pas qui elle recherche, on te dit que c'est pas si grave. Là, le problème, c'est qu'en fait, elle a la capacité de traiter cette masse de données, ces quantités astronomiques de profils reconstitués sur les réseaux et à partir du scan des boîtes mail. Elle a la capacité d'identifier des types de personnes, des types d'opposants, des types de comportements, sans savoir a priori qui elle va cibler. Donc il est possible à partir de là d'identifier, par exemple, de dresser la cartographie de tous les opposants d'extrême droite, mais des opposants d'extrême gauche. Il est possible d'identifier toutes les catégories que tu puisses imaginer. Tu dois pouvoir, avec des gens suffisamment compétents pour traiter ces données, parvenir à identifier tous les gens, plus ou moins précisément, toutes les personnes qui vont tomber dans ces catégories. Et donc ça permet ensuite d'opérer quelque chose comme de la répression préventive. Et là, on a quelque chose qui est très très flippant, surtout parce que ça marche pas forcément très très bien. Il y a un exemple qui est celui de la pose des caméras dites intelligentes à Toulouse. C'est un truc qui est tout récent. Et en fait, ces caméras, elles sont pilotées par des algorithmes de reconnaissance pour reconnaître des situations dangereuses. Donc il n'y a pas forcément quelqu'un derrière qui est tout le temps en train de les regarder. Donc en plus, on fait une économie dans le coût de la main-d'œuvre, c'est fantastique. Il y a des algorithmes de reconnaissance faciale qui tournent. Alors, ils ne sont pas implantés pour le moment. Ça va probablement se faire, mais c'est un petit peu trop sulfureux pour que ce soit le cas. Donc là, ce n'est pas encore le cas. Et donc, un exemple typique de situation dangereuse qui va pouvoir être identifiée, c'est par exemple de voir une personne qui traverse l'écran de la caméra, qui traverse le champ de vision de la caméra, qui s'arrête au milieu, qui dépose un paquet et qui quitte le champ de vision. Et à ce moment-là, en fait, la caméra va identifier quelque chose comme une pose de bombe. Le terrorisme a toujours, évidemment, bon dos dans ce cas-là. Et elle va envoyer un signal, déclencher une alerte, qui va déclencher à son tour une opération, donc là, mettons, de déminage, mais en tout cas, une intervention des forces de l'ordre. Et en fait, ça, c'est assez troublant quand on y pense, parce que ça rappelle beaucoup la guerre par drone que l'armée américaine a pu mener, où en fait, ils disposaient de données satellites, ils essayaient de capter des communications dans un territoire dans lequel ils menaient cette guerre-là. Et en fait, c'est au moment où des motifs avaient été repérés, des motifs de comportement, un comportement suspect, alors je ne sais pas ce que ça peut être, mais que des alertes sont déclenchées et qu'à ce moment-là, on peut identifier la cible et que tu as des opérations de répression ciblées, donc des assassinats ciblés qui sont engagés. Donc voilà, là, on a un problème qui, à mon sens, est vraiment majeur. Alors, ça devrait vraiment énormément nous préoccuper en tant que militants, ce qui se passe là, en tant que militants et militantes. Parce que toute action politique va avoir à faire face à ce problème-là. On a un État qui est doté de moyens de répression violente, mais là, on n'a pas besoin d'en venir là, qui est doté de moyens de répression préventive qui sont considérables.
Est-ce qu'il y aurait moyen de détourner ces dispositifs? Parce qu'en fait, comme une situation dangereuse est par définition indéfinissable, puisque ce sont des dispositifs automatiques, disons le revers, entre guillemets, la contre-productivité de ce genre de technologie, c'est que du coup, le sabotage de ce genre de truc, juste en faisant semblant de poser un objet, on pose un mouchoir ou une merde de chien devant une caméra, c'est là où on voit les limites d'ailleurs de l'automatisation. C'est que là, en l'occurrence, s'il n'y a pas un type qui regarde derrière, c'est le genre de dispositifs qui, effectivement, sont hyper préoccupants, et etc., qu'il faut lutter contre. Mais il faut aussi penser à des moyens de les saboter de manière parfaitement légale, c'est-à-dire tout simplement de les perturber. Quoi.
Ouais. Alors évidemment, là, le cas de la valise déposée par une personne qui traverse le champ de la caméra, c'est parce qu'il va le plus nous intéresser, en fait, évidemment. Et c'est facile de déclencher des alertes à partir de ça. Tu lâches un sac vide, et on peut faire ça dans le métro, d'ailleurs. Ça va bloquer le RER vers la Défense ou la ligne 1 à Paris. Non. En fait, ce qui va être plus problématique, c'est par exemple la reconnaissance faciale. La mairie de Toulouse, elle n'a pas implanté ça. Bon, pourtant, elle a tout à fait les moyens techniques de le faire, et c'est le projet au départ. Ça n'a pas été fait parce qu'évidemment, c'est auprès de l'opinion, c'est absolument irrecevable, un truc comme ça, pour le moment en tout cas. J'imagine qu'on va la travailler suffisamment pour qu'elle accepte, tout. Hein. Voilà, on verra dans 5 ans. Mais bon, c'était complètement inacceptable. Le problème, c'est qu'on sait faire ça. Donc, il y a quand même des algorithmes de reconnaissance faciale qui tournent bien. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça sur Facebook, des propositions de tags automatiques. C'est des choses qui sont récentes. Il y a une innovation qui est très rapide dans ce domaine-là. En plus, il y a des capitaux énormes parce qu'évidemment, ça va représenter commercialement et pour les forces de l'ordre, ça représente un intérêt colossal. Bon, et donc, ça, c'est plus compliqué parce que comment tu fais? C'est difficile de se masquer complètement le visage quand tu passes devant toutes les caméras, parce que dans les grandes villes, maintenant, il y en a absolument partout. Et donc, tu te fais repérer très, très vite quand tu fais ça. Et c'est même criminalisé, d'ailleurs, de se couvrir le visage. Il y a des solutions qui sont envisagées par des équipes de recherche un peu indépendantes dans le milieu du hack, qui ont évidemment personnellement ça très à cœur. C'est par exemple certains types de maquillage. Si on arrivait à faire passer comme mode un maquillage qui rompt les traits du visage avec des formes géométriques, c'est des rectangles, des triangles, sur ton visage, en fait, les caméras seraient complètement perdues. Elles ont vraiment beaucoup de mal à s'y retrouver à partir du moment où tu poses un maquillage comme ça sur un visage.
Le maquillage deviendrait subversif et voilà. Sephora serait relancé.
Bon, alors voilà, on entre dans des contradictions infernales. Bah, peut-être qu'on produirait notre propre maquillage.
Ah oui, hein. Autogestion du
et
maquillage.
Et en plus, on peut subvertir les standards de genre comme ça. Moi, ça me semblait vraiment une solution intéressante.
Ah, c'est intéressant. Ouais.
De la même façon, en fait, les caméras elles seraient aveuglées si on pouvait poser des petites diodes électroluminescentes autour de notre visage. Et donc, par exemple, tu peux imaginer sur une casquette, au lieu de mettre des clous sur la visière, et bah, tu mettrais des petites diodes. Donc, avec une petite pile qui les allumerait, ça ne consomme pas d'électricité, ce truc-là en plus. Donc, si on peut lancer cette mode-là, la caméra, quand elle va voir quelqu'un passer avec sa casquette sur la tête, mais avec le visage découvert, elle va être complètement aveuglée. Elle va avoir un halo de lumière autour du visage de cette personne-là.
C'est bien. Ça permettrait en plus de créer des nouvelles formes de sainteté.
Voilà, exactement. Donc il y a des moyens de détourner ces dispositifs techniques-là, de les contrer. Mais en fait, bon, alors là, c'est pas l'extrême-gauche traditionnelle, c'est pas les anards et les communistes que nous sommes qui occupons ce terrain-là. En fait, c'est le milieu des hackers. À mon avis, il y a vraiment un intérêt à discuter avec ce milieu qui a vraiment qui a une compréhension très très fine de ces enjeux, qui est très à la pointe et qui en plus lutte de manière assez efficace. En fait, c'est eux qui nous dotent de tous les outils qu'on a pour contrer ces dispositifs de surveillance. Et il faut discuter. Effectivement, il y a peut-être des divergences dans les valeurs communément acceptées, dans l'analyse de la société, etc. Ça peut arriver. Mais on a beaucoup de camarades dans ce milieu, vraiment. Je pense que c'est un problème qu'il faut vraiment poser. On va se le prendre dans la tête assez rapidement. Ça va arriver. C'est des dispositifs qui sont trop efficaces pour que les États ne s'en servent pas. Après, cette surveillance étatique, elle ne fait pas tout. Il y a autre chose. En fait, quand on parle de surveillance, on pense à ça, évidemment, et les hackers s'occupent beaucoup de ça. Mais ils nous aident aussi à nous défendre d'autres choses, qui est une surveillance qu'on pourrait appeler commerciale ou marchande. Donc là, les acteurs qui sont impliqués, ce n'est pas les agences gouvernementales de renseignement. C'est des boîtes privées, donc on en connaît, hein, c'est Facebook et YouTube, et voilà, on retombe toujours dessus. On pourra en parler de manière séparée, peut-être on passera un petit peu de temps là-dessus, mais il y a une intrication très forte entre ces grosses compagnies-là, ce secteur privé des médiations numériques, et la surveillance étatique. Parce qu'en fait, il faut se dire que l'État n'a pas les moyens de réaliser cette surveillance tout seul. Tout à l'heure, on parlait de la NSA, dont Snowden a révélé qu'elle espionnait l'ensemble du flux de données sur la planète. En fait, cette agence, elle ne peut pas le faire si elle n'a pas des partenariats très forts avec Apple, avec Microsoft, avec les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d'accès à Internet, avec les compagnies qui possèdent les tubes, la matérialité du réseau, avec les fabricants de téléphones. Parce qu'en fait, elle va avoir besoin d'eux pour laisser des portes dérobées, par exemple dans les téléphones, qui leur permet d'accéder immédiatement au contenu du téléphone sans avoir à saisir l'objet matériellement, par exemple, qui permet de le faire à distance. Elles ont aussi besoin, simplement, même sans partenariat direct, de l'activité de ces grands réseaux sociaux parce qu'on livre énormément de notre vie sur Facebook, sur Twitter. Et donc, ça génère suffisamment de données pour qu'ensuite... Ça génère une masse de données qui est indispensable à ces agences gouvernementales pour atteindre leur fin de ciblage des populations et de surveillance. Donc, voilà, ça prend vraiment plusieurs formes. Tu as le partenariat vraiment très intégré. Un exemple dans la Geo Intelligence, le renseignement géographique. Tu as plein de géographes, de chercheurs qui finissent par bosser pour des agences de renseignement américaines ou pour l'armée. Alors, on a assez peu d'infos, hein, c'est évidemment un petit peu secret, mais il y a des chercheurs qui sont penchés dessus et qui ont montré que l'armée américaine, en fait, elle établit énormément de contrats avec des fournisseurs privés. Alors, c'est pour des trucs tout bêtes, hein, pour la nourriture, la logistique et tout ça. Mais en fait, c'est aussi énormément pour le renseignement parce qu'il y a des grandes compagnies qui ont la capacité de capter des images par satellite, de les traiter, de les analyser, tout ça, ce que l'armée n'a pas forcément les moyens de faire. Et donc, ce partenariat-là, il est tellement fort que ces grandes compagnies, leur cotation en bourse, elle est quand même surveillée par le Congrès américain. Il y a un assemblage, vraiment une intrication très forte des deux. Bon, et à part ça, à part ces assemblages très intégrés avec des partenariats économiques explicites, il y a simplement cette masse de données absolument colossale qu'on livre sur Internet, avec les réseaux sociaux, avec notre navigation, hein, tout simplement, sur tous les sites que tu visites, en fait. Probablement que Google est au courant de ton parcours de navigation sur la plupart des sites visiter. Il y a une petite application, alors voilà, ça peut être ludique pour illustrer ça si c'est un peu nébuleux, pour les utilisateurs du navigateur qui s'appelle Firefox. Il y a une petite application qui est téléchargeable dessus qui s'appelle Light Beam, rayon de lumière. Et en fait, cette petite application, elle va essayer de montrer tous les sites web, qui tracent votre parcours sur Internet. Et donc, il suffit de naviguer une heure un coup sur Le Monde pour aller voir ses infos, un coup sur Facebook pour aller poster deux, trois choses. Et en fait, on s'est retrouvé connecté à 15, 20 serveurs qui tous ont eu, savent quels articles on a consultés, potentiellement pendant combien de temps, avec qui on a communiqué sur Facebook, etc. Donc, il y a une masse de données considérable, il y a une valeur économique considérable, hein, on en avait parlé l'autre fois dans l'émission sur le travail. Et donc, il y a des compagnies, des entreprises qui sont quasiment grosses comme des États, comme Google. Alors maintenant, il faut dire Google Alphabet, parce que ça a changé de nom. Google, c'est le nom du moteur de recherche, mais en fait, cette grande compagnie, elle s'appelle Alphabet. Et le moteur de recherche, c'est juste un détail de leur activité. Maintenant, c'est une compagnie de traitement de données, de collecte et de traitement et de revente de données. Donc, Google Alphabet, par exemple, rachète tout ce qui a l'air intéressant dans le domaine de la captation de données. Le moteur de recherche en fournit déjà pas mal, mais YouTube aussi, mais il y a des nouvelles choses qui se font. Et par exemple, il y a une compagnie qui s'appelle Nest, qui travaille dans la domotique. Et alors, cette compagnie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fabrique des thermostats connectés. Et ces thermostats connectés, ils sont connectés à Internet, je ne sais pas pourquoi, hein, je n'ai pas été vérifié, mais ils sont capables de collecter des informations sur ce qui se passe dans les domiciles. Sur, alors j'imagine, je ne sais pas, le mouvement des gens à l'intérieur des pièces, peut-être, leur occupation de l'espace, bon, je ne sais pas exactement. Il y a des frigos connectés maintenant qui vont faire ça, donc qui collecteront des informations sur la nourriture en réserve dans le frigo. Bon, ça a l'air un peu anecdotique, mais il y a Amazon qui a sorti quelque chose qui est intéressant, qui s'appelle Alexa. Amazon a produit cette espèce de boîte, alors c'est un tube, et donc cette boîte, elle capte absolument tout ce qui se passe dans son environnement. Le but, en fait, c'est que ce soit une espèce d'assistant personnel à qui tu puisses parler. Tu dis bonjour Alexa, quelle température il fait aujourd'hui à Rouen? Donc, voilà, elle se connecte à Internet, elle va essayer de trouver l'information. Ça marche plus ou moins bien. Tu peux évidemment lui commander directement des produits sur Amazon. Et,
c'est merveilleux.
Ah, c'est merveilleux. Bah, c'est la consommation à portée de main sans effort. Non, c'est magnifique. Et l'envers d'Alexa, donc ça coûte, je sais pas quel prix ça coûte, mais c'est pas complètement gratuit. Mais l'envers de cette bestiole, c'est qu'elle capte absolument tout ce qui se passe chez toi. Donc elle enregistre toutes les conversations. Il faut la laisser allumer pour que ça fonctionne. Pour que tu puisses interagir avec elle. Bah, le prix pour ça, c'est qu'elle enregistre ce que tu lui dis, ce que les autres personnes dans la pièce disent. Bon, mais en fait, à partir de là, tu peux dire énormément de choses sur les habitudes de vie d'une personne. C'est comme si tu avais un enquêteur, un petit sociologue qui était,
posté chez toi en permanence.
Voilà, posté chez toi en permanence. Donc, il te permet de commander des produits instantanément sur Amazon, c'est fantastique. Mais il sait à peu près tout sur toi. Alors, je ne sais pas si la boîte est capable de prendre des photos ou des vidéos, je ne pense pas. Bon, il y a plein d'autres machines qui sont capables de faire ça. Donc là, tu as des dispositifs qui sont complètement commerciaux, hein, c'est pas la NSA directement, mais qui sont tellement intrusifs qu'ils en deviennent extrêmement précieux pour les agences gouvernementales. Et donc, la surveillance qu'il est possible de mettre en place à partir de ça, c'est une surveillance qui est très très fine. Surveillance massive, mais extrêmement fine. Parce que bon, Amazon, il s'en fout hein, fondamentalement du fait qu'on discute devant lui d'une action politique un peu subversive, plus ou moins illégale, ou de la dernière série télé. Lui, il veut juste nous vendre des bouquins, des t-shirts, du tché, etc. Bon, mais si l'info existe, les agences de renseignement peuvent la capter, ils peuvent l'intercepter, ou la justice peut exiger que les forces de l'ordre y aient accès. Voilà, c'est le problème. Si l'info existe, il est possible qu'elle soit saisie.
Il y a eu une controverse d'ailleurs là-dessus, parce que Google, je crois, a produit quelque chose d'analogue, et apparemment Google ça aurait pu élucider une scène de crime, et Google a refusé de donner les informations à la justice, pas pour se donner une image de « on n'espionne pas votre vie privée », parce qu'il y avait... bon, il y a quelqu'un qui est mort, mais quand même, ça aurait trop nuit aux produits. Et donc on voit que les boîtes, parfois, sont dans des contradictions, mais globalement, bon, comme elles dépendent beaucoup du gouvernement, quand même Miami, quoi.
Oui, parce qu'en fait, ces concessions-là, elles sont faites sous la table, dans des bureaux obscurs. Hein. C'est pas...
Alors que là, c'était la justice, c'était un procès, donc il fallait quand même...
En fait, dès que les affaires sont médiatisées, ce grand capital numérique là, est beaucoup plus réticent à livrer les informations. C'est, je crois, Apple qui avait refusé de livrer la clé de déchiffrement d'un iPhone. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'était, un détail, c'était une application. Avait refusé de livrer cette clé-là pour un cas... terrorisme, je ne sais quoi, parce qu'on aurait pu avoir des informations sur le téléphone de la personne. Bon, mais parce que c'était un cas public, et symboliquement, ça aurait été intenable. Par ailleurs, il faut énormément de concessions, juste on est beaucoup moins au courant de ça, mais...
Oui, c'est ça, il faut avoir une façade de défenseur des libertés numériques, blablabla, quoi.
C'est normal. Mais les grands fournisseurs d'accès, c'est tous de grands collaborateurs des forces de renseignement. Orange en France, très probablement les autres, hein. Voilà, ils travaillent vraiment main dans la main. Et donc voilà, on a une masse de données qui est produite commercialement, qui est super intéressante pour l'État. Et du coup, de la surveillance politique simplement au contrôle politique, il n'y a qu'un pas. Il y a un exemple qui est particulièrement choquant, c'est un projet qui a été lancé par la Chine en 2014, je pense, et qui devrait aboutir en 2020. Donc voilà, on est vraiment en cours. C'est un projet de système de crédit social. Alors, en fait, ce qu'ils font, c'est que tu vois, ça part encore une fois du commercial. C'est-à-dire, tu as une entreprise qui s'appelle Sésame, qui est une entreprise d'assurance et de crédit, qui agrège énormément de données captées sur les réseaux pour dresser un profil des personnes qui viennent acheter ces services et qui attribue à ces personnes un score d'assuré. Telle personne, elle est bien intégrée socialement, elle a une bonne situation financière, donc OK pour le prêt ou OK pour un rabais sur l'assurance. Donc là encore, c'est des choses classiques, sauf que évidemment, la masse de données est infiniment plus élevée que ce qu'on avait il y a 20 ans. Bon, ce système-là, il est suffisamment performant pour que le gouvernement chinois se soit dit, mais en fait, plutôt que de simplement avoir une note de la santé financière et sociale d'un individu, note qui d'ailleurs, en fait, cette note Sésame-là, elle était déjà utilisée par les gens pour, par exemple, elle avait une fonction matrimoniale. C'est-à-dire qu'en rencontrant quelqu'un, tu pouvais lui demander sa note Sésame. Est-ce que vous avez une bonne situation financière et sociale? La note objective ça. Et donc, ah oui, ok, ça c'est un bon parti, objectivement. Il y a une entreprise commerciale derrière qui assure que telle personne est un bon parti. Bon, tu vois, il y a une série Black Mirror qui est fantastique, le premier épisode de la 12e, 3e saison, je ne sais plus, qui a vraiment, qui fait très très bien réfléchir à ce problème politique-là, à ce type d'autosurveillance et de réification. Donc, Sésame produit un score de la santé sociale et financière, de l'intégration sociale et de la santé financière d'une personne. Le gouvernement chinois se dit, mais on pourrait utiliser ça comme un score d'intégration sociale en général, un score de moralité citoyenne. Donc, il suffirait de réutiliser ces données-là, qui ont été collectées par Sésame, de les coupler avec d'autres bases de données, de voilà, les renflouer un petit peu. Le but, c'est d'avoir un score qui, par exemple, jugerait de moralité de la personne, type est-ce qu'elle prend bien soin de ses aînés. C'est vraiment un des choses qui ont été explicitées par les officiels du gouvernement chinois. Est-ce qu'elle prend bien soin de ses aînés? Bon, alors si, je ne sais pas comment on le saurait d'ailleurs, quelqu'un dénonce, je ne sais pas comment ça fonctionnerait. Si la personne ne prend pas bien soin de ses aînés, elle perd des points sur son score. Si elle se livre à la diffamation sur Internet, également. Bon, en fait, si elle se livre à n'importe quoi qui pourrait avoir un semblant, qui pourrait ressembler un tant soit peu à une contestation du régime, évidemment, elle va perdre des scores, elle va perdre des points. Et en fait, ce système, il a pour but d'autoriser ou non l'accès à des services sociaux ou à des statuts de travailleurs de la fonction publique ou autre. Donc, il y a vraiment un continuum d'interactions plus ou moins intégrées entre surveillance étatique, surveillance commerciale, et qui donne lieu à voilà, un partenariat bien fonctionnel qui irait très très loin. Ça donne lieu ça nous laisse envisager cet horizon complètement dystopique que nous propose l'État chinois. Donc on aurait vraiment quelque chose de totalitaire qui demanderait pas beaucoup de travail, il n'y aurait pas besoin d'une grosse main d'œuvre pour assurer cette surveillance-là, et elle serait incroyablement fine, elle serait beaucoup plus objective, beaucoup plus rationalisée, beaucoup plus efficace dans son contrôle que la surveillance de la Stasi ou d'autres régimes totalitaires.
1984, à côté, c'est les poubelles de l'histoire.
Oui, mais en fait, voilà, on arrive vraiment à envisager ça d'assez près. Alors, j'espère évidemment qu'il y aura tout un tas de résistances à ça. Alors, je ne vois pas très bien encore, face au gouvernement chinois, face à ce système-là, comment les résistances se mettront en place. Mais évidemment qu'il y aura des moyens de biaiser, il y aura des technologies, des petits dispositifs, des logiciels, comme il y en a tant aujourd'hui, qui seront développés pour...
contrer ça.
Voilà, pour contrer ça, pour lutter sur ce terrain-là. Mais bon, c'est vrai que c'est une perspective assez sombre. Ensuite, voilà, ce partenariat, il fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire ces énormes entreprises qui nourrissent l'État, en réalité, elles ont aussi besoin de l'État pour fonctionner. Donc voilà, ça va vraiment dans les deux sens. Alors, t'as un exemple qui est juste incroyablement scandaleux, qui est celui de GAFAM et de l'éducation nationale. Alors, c'est les GAFAM, G-A-F-A-M. En gros, c'est un acronyme pour désigner ces grandes entreprises. C'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Parce que Microsoft vient de se convertir à un business model qui est celui de l'exploitation de données. Donc, fin 2015, il y a eu un contrat entre l'éducation nationale et Microsoft qui a investi, Microsoft a investi 13 millions d'euros gratuitement pour les beaux yeux de l'éducation nationale pour avoir le droit, alors je crois que c'était de fournir des tablettes aux élèves, massivement. De même, il y a beaucoup de classes, et c'est incité vraiment par l'État, qui vont passer à l'utilisation de Google Classrooms pour faciliter les échanges entre enfants et profs. Alors, je ne sais pas exactement en quoi consiste le logiciel, mais il va assurer la médiation. Évidemment, il va assurer la médiation, il va aussi assurer la surveillance, hein, naturellement, comme sur le lieu de travail. Là, tu vas avoir une surveillance directe des élèves par les profs et ou par les parents, voire des parents par les profs. Hein. L'institution se permet de rentrer beaucoup plus loin dans les rapports qu'elle était capable de faire jusque-là. Mais surtout, l'intérêt de ces grandes entreprises, ça va être la vente des données à d'autres, au secteur privé en général. Donc l'éducation nationale, elle a même assuré dans un courrier qu'elle était tout à fait disposée à partager ses bases de données avec eux, qu'il n'y avait pas d'obstacle légal et qu'elle était disposée à en autoriser la revente à des tiers. Donc voilà, ce qui est quand même un petit peu inquiétant. en soi, la base de données de l'éducation nationale du type bon, bah, le parcours de l'élève et voilà, c'est pas non plus les bases de données les plus riches qu'on puisse imaginer. Par contre, que les médiations, que les rapports sociaux à l'intérieur de l'institution entre élèves, entre profs, soient médiés par des dispositifs qui captent des données, ça, ça permet...
Élèves turbulents, élèves contestataires, voilà. Élèves...
En fait, ça peut permettre de classer, de faire apparaître des classifications qui sont beaucoup plus fines encore que ce que l'institution, elle, explicite dans ses propres bases de données. Mettons que l'institution, elle a les notes dans ses bases de données, c'est sympa, mais accéder, je sais pas, à la manière d'écrire d'un élève à son enseignant, en fait, rien que ça, ça peut permettre de dire énormément de choses sur son origine sociale, sur sa trajectoire de vie. Voilà. On peut corréler, on va pouvoir corréler, à partir de la captation des données dans ces médiations, une quantité de caractéristiques sociales, beaucoup plus que qui constituent les bases de données actuelles de l'éducation nationale. Bon, et donc, alors ça, c'est pas sans poser des problèmes, tu vois, l'horizon que ça dessine. T'as l'éducation nationale, bon, évidemment, elle a déjà une fonction de préparation des futurs travailleurs dociles aux exigences du marché du travail. Alors, je pense qu'on a tous connu des profs qui nous disaient, mais comment tu feras quand t'auras un patron ? Donc, ok, elle a cette fonction-là, certes. Simplement, pour l'instant, elle exerce cette fonction comme un intermédiaire. Donc, quand on passe dans l'école, le marché du travail, il est comme un peu à distance. C'est l'horizon lointain, hein. Les intérêts privés, ils sont pas tout à fait là en train de faire cours directement à la place du prof. Donc c'est encore, voilà, c'est ce ministère, c'est l'institution qui fait la médiation. C'est un chaînon. Là, le problème, c'est que tu as un moyen pour des entreprises privées de pénétrer directement dans tout ce processus-là de construction des futurs travailleurs. Donc ça permet de pas simplement avoir ce pouvoir tu vois, de lobbying global, d'influence, de... Je sais pas, sur les programmes, par exemple, où tu as des discussions sans fin sur l'élimination de la, comment on appelle ça, de la sociologie compassionnelle au lycée, c'est-à-dire en gros toute la sociologie critique, Bourdieu et tout ça, pour remplacer ça par de l'économie très opératoire, très mainstream et idéologique. Bon, ça, c'est des trucs classiques. Voilà, ça, c'est le pouvoir d'action classique du privé sur l'éducation nationale. Au niveau des universités, ça va passer par des filières.
Genre management du sport. Ou...
Oui, voilà, ou même c'est les fameuses licences McDonald's et tout, ça avait un peu fait l'actualité pendant un moment. Bon, il y a ça. Là, vraiment, ces firmes, elles vont pouvoir pénétrer très très finement dans les rapports sociaux. Elles vont pouvoir capter les trajectoires de vie, les déterminants sociaux, les caractéristiques sociales de tous les acteurs qui sont impliqués. Mais en fait, potentiellement, elles pourraient aussi les réorienter. Elles pourraient avoir une influence dessus. Elles pourraient rediriger les parcours.
Planifier, du coup, l'allocation des travailleurs un petit peu comme le rêverait un espèce de capitalisme d'État bureaucratique.
Ouais. En fait, ça a l'air un peu...
Planifier de manière souple, on va dire.
Ouais. À cette échelle-là, forcément, ça a l'air un petit peu paranoïaque, un peu spéculatif. Bon. En réalité, ça n'a pas l'air complètement... C'est pas si fou que ça, dans la mesure où Google Alphabet, c'est une entreprise tentaculaire, gigantesque. En fait, c'est quasiment un État, hein. C'est probablement une des firmes les plus puissantes du capitalisme contemporain. Donc, c'est pas impossible que Google, à partir du moment, donc Google Alphabet, à partir du moment où il a vraiment accès à ses données fines, qu'il peut rapidement communiquer par le biais de ses différentes plateformes, de tous ses dispositifs, etc., communiquer directement avec les élèves. Il n'est pas impossible qu'on puisse imaginer une réorientation de la force de travail vers ses intérêts, qu'en fait, Google Alphabet déploie une stratégie globale d'influence, certes marginale, mais quand même, par son extension, elle n'est pas négligeable, sur la force de travail en formation. Donc, ça, c'est voilà, la perspective la plus spéculative, mettons.
Genre, vu ton profil, tu recevrais un message, vu ton profil, peut-être qu'il serait bon de t'orienter vers un bac STG de secrétaire.
Ouais, pourquoi pas, ou... Oui, complètement. En fait, on peut un peu tout imaginer. On peut imaginer de l'influence politique, on peut imaginer oui, voilà, de l'orientation professionnelle. Enfin, faudrait de bons écrivains en science-fiction pour nous suggérer des pistes, là.
Ouais, il manque d'écrivains en science-fiction parce que finalement, la fiction finit par être dépassée par les tendances du réel.
Oui, ça va très très vite. Donc là, on a besoin d'imagination à l'œuvre pour savoir à quoi s'attendre. Bon, mais alors voilà, ça, c'est peut-être le versant le plus spéculatif de la chose. Il y a un autre effet qui est un effet plus pervers. Et donc là, on ne va pas imputer à Google Alphabet une stratégie globale à ce niveau-là. Ce serait celui du renforcement des identités, la redéfinition des identités, de leur confirmation, de leur déplacement. Ça, c'est quelque chose qui va... Ça va nous permettre, en fait, de discuter l'ensemble de la surveillance commerciale, parce que ça ne s'applique pas que à ce cas de partenariat avec l'éducation nationale. À partir du moment où tu as de la captation de données, du traitement, à destination des publicitaires, à destination des assureurs, etc. À partir de ce moment-là, tu as nécessairement la fabrication d'identité. Parce qu'une donnée en soi, bon, c'est rien, c'est quelques chiffres. Il va falloir la contextualiser. Non, plutôt, il va falloir lui donner du sens. Cette opération de gain de sens, elle va aboutir à la constitution de type, de profil, d'identité numérique. Alors voilà, ça peut être, mettons, la classe, le type des gens qui aiment bien tel et tel type de musique et qui, en plus, ont été voyagés dans tel pays, typiquement. Ça peut être des profils plus individualisés, donc avec voilà, ton profil à toi, tout ce qu'on peut savoir sur toi, à l'intersection du coup de plein de classes, de caractéristiques. Et ça peut être des choses qui sont plus fines, des catégories qui sont plus fines. Alors, j'ai pas le...
Genre les fans de V pour Vendetta.
Oui, voilà. En fait, ça va faire intervenir à la fois un profil qui est celui de l'individu et des caractéristiques qui sont infra-individuelles. C'est-à-dire ça va opérer
une multiplicité de caractéristiques qui va faire que tu vas te retrouver à l'intersection de tout un tas d'affinités. Quasiment Google ou Facebook va pouvoir calculer quelle est ton identité et quelle est l'identité dont tu dois te reconnaître, du genre « Ah bah je suis un geek post-moderne, post-opéraïste », j'exagère complètement,
par exemple.
Ou « Je suis un fan de techno, mal dans ma peau, tatatata, et du coup je vais aller me regrouper avec les gens », ce qui va créer une forme de dépolitisation complète, puisque tout le monde va... ça va être un petit peu « Venez comme vous êtes, on va vous dire qui vous êtes ».
Ouais. Et oui, et c'est ça qui est paradoxal en fait. Venez comme vous êtes, on sait qui vous êtes, on va vous le dire. Donc on va vous dire la vérité des
votre
sujets
être.
Qui sont engagés dans cette surveillance-là. Oui, mais le problème c'est que tu peux jamais... Ça demanderait une... Pour approcher la réalité d'un sujet avec cette quantification-là, avec cette captation de données, il faudrait des moyens absolument colossaux. Et puis, quelles données on capterait, qu'est-ce qu'on laisse échapper de la réalité de la vie d'une personne, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à capter. Bon. Donc, en fait, évidemment, ce profil numérique, ce double numérique-là, il ne va jamais tout à fait coller au sujet vivant dans sa complexité, dans sa concrétude.
Donc, en fait, ça donnerait un phénomène de réduction.
Voilà. Donc, il y a quelque chose comme une réification, quelque chose comme réduction, un aplanissement des personnes. Alors, bon, on se dit, OK, mais c'est notre double numérique. En quoi est-ce qu'il va nous affecter, ce double? Là où il va être utilisé, c'est... Alors, par exemple, pour la publicité ciblée, il va être utilisé d'une manière qui est celle de... Voilà, selon des logiques d'assimilation et d'anticipation. Donc, le but, c'est de dire... Regardez, on a un sujet A, il appartient à la classe des gens qui écoutent tel type de musique et sont partis dans tel pays, et qui sont des post-opéraïstes geeks. Donc, ce qu'on va lui proposer comme achat, comme publicité ciblée, c'est des choses qu'ont aimé les autres qui tombent aussi dans cette catégorie-là.
Comme Amazon fait déjà, d'ailleurs.
Voilà. En fait, c'est les autres qui vous ressemblent ont apprécié ça. Et donc, il y a une configuration de ton environnement. Alors, pour prendre un cas anecdotique de navigation sur Internet, ton environnement, il est modelé, le paysage de ta navigation, il est modelé de manière à correspondre à ce que auraient aimé les gens qui, a priori, te ressemblent. Selon cette catégorie un peu vague, forcément un peu partielle, qui a été à la base de la recommandation, de la publicité ciblée. C'est pour ça que des fois, tu tombes sur des trucs qui ne t'intéressent pas, évidemment, parce que le fonctionnement de la publicité ciblée, c'est évidemment de rater une partie de ce que t'es. Elle t'assimile à un groupe, de manière plus ou moins fine, hein, mais elle t'assimile toujours à un groupe. Et du coup, c'est toujours en regardant le passé, c'est toujours en regardant ce qui s'est fait avant, en regardant une identité qui a été prédéfinie, en disant, bon voilà, ce que cette classe de personnes a aimé, le sujet qu'on a sous les yeux, là, bah, il devrait certainement l'apprécier aussi, ça risque de déclencher un acte d'achat. Donc, voilà, t'as quelque chose comme de l'assimilation, comme de l'anticipation, mais tourné vers le passé. Alors, on s'en fiche un petit peu quand il s'agit juste de proposer des choses, des produits à l'achat. Ça peut être super embêtant. Peut-être t'as des nanas, par exemple, qui reçoivent dans leur boîte aux lettres des publicités pour des produits, des tests de grossesse ou des choses comme ça. Ou en fait, la famille reçoit des publicités pour des produits qui apprennent des choses sur d'autres membres de la famille. Donc,
C'est hyper gênant parce que du coup,
c'est des situations,
les publicités ciblées peuvent faire que du coup, bah, je sais pas, quelqu'un qui était anarchiste transgenre, du coup, toute sa famille va recevoir des publicités qui vont dans le sens de l'anarchisme transgenre.
Super bon exemple, tu peux te faire outer par un truc comme ça, par exemple. Ça risque d'arriver en fait. Une publicité ciblée, finalement, elle va tomber sur la mauvaise personne, sur le membre de la famille qui utilise l'ordinateur de la personne qui se fait outer, et voilà, elle tombe sur des recommandations répétées, un peu insistantes, qui visiblement ont l'air de s'adresser à une orientation sexuelle, à une identité de genre particulière. Bon, ça peut être super problématique. Il y a un autre élément qui est intéressant à discuter, c'est celui du fait que, à partir du moment où ces algorithmes traitent des données comme ça, en produisant des catégories, alors certes, d'abord, ils risquent de retomber sur des identités sociales qui préexistent. Les publicités ultra-genrées qu'on reçoit, évidemment, ça ne peut que contribuer à confirmer les identités de genre. Le problème, c'est que ça peut aussi contribuer à solidifier des inégalités. Donc là, on parle de publicité, c'est pas très important. Quand on parle de rapport à l'assurance, ça l'est beaucoup plus. Ou en fait, tu peux simplement te voir dans l'accès au crédit, etc. Il y a plein d'éléments de facilité, d'intégration sociale, d'accès à certains services et autres qui peuvent être conditionnés à ton identification à une certaine identité, et donc à une certaine identité de genre, raciale, à une identité de classe, parce qu'on peut assez bien savoir si tu es pauvre ou riche à partir du matériel avec lequel tu navigues sur Internet, donc on peut identifier ça. Bon, donc voilà, il est possible de, a priori, traiter une population, si tu vends un service, si tu es une agence étatique ou autre, tu peux conditionner l'accès à un service ou régler ton service, la qualité de ton service, le contenu de ton service, en fonction des identités des personnes que tu as en face de toi. Donc ça, c'est pratiqué par les assurances aux États-Unis avec un profilage racial classiste. Voilà, c'est quelque chose qui est un vrai problème. Ça fait déjà un certain temps que ça existe, mais c'est un vrai problème. Après, tu as d'autres exemples comme ça où... alors, c'était en 2009, je crois, tu as eu une vidéo qui a fait un petit peu scandale de deux personnes sur deux jeunes américains qui expliquaient, alors c'est le titre de leur vidéo, que HP Computers are racist. En fait, ils essayaient d'utiliser un ordinateur HP, et cet ordinateur, il était littéralement raciste, dans le sens où le dispositif de reconnaissance faciale qui permettait l'authentification, tu mets ta tête devant la webcam pour ouvrir ta session, ce dispositif-là, il ne permettait pas de reconnaître les visages noirs. Alors, ça fonctionnait beaucoup moins bien. Donc là, tu te retrouves en fait avec des personnes qui se retrouvent identifiées, qui sont catégorisées socialement, qui sont soumises à une identité sociale, qui se retrouvent en raison de cette identité, parce qu'elle est renforcée par des dispositifs numériques, à encore une fois se retrouver éloignées de l'accès à une ressource ou autre. T'as un autre élément qui est très récent et qui résonne peut-être plus avec l'actualité. Donc il n'y a pas très longtemps, Trump a suggéré qu'on puisse refuser l'accès à l'armée américaine aux personnes transgenres. Bon, alors, la transidentité, c'est pas une étiquette sur le front. C'est pas si simple que ça. Là, on cherche à l'effacer légalement sur les papiers. On commence à y arriver dans plusieurs pays. Bon. Et là, en fait, il y a un chercheur qui s'est dit « Moi, je vais entraîner mes algorithmes de reconnaissance faciale en allant chercher sur YouTube des vidéos de personnes transgenres qui, en fait, ont documenté leur transition. » Et c'est-à-dire que, par exemple, elles prenaient des photos tous les jours de leur transition pendant un traitement hormonal, mettons. Et donc, ensuite, tu as un film en accéléré qui montre la transition d'une personne. Et donc, ce chercheur super bien intentionné, là, qu'on remerciera tous, il a été chercher ses vidéos sur YouTube. Il a entraîné ses algorithmes à ça pour qu'en fait, ses algorithmes soient capables de reconnaître des personnes transgenres. Donc, ce que ça peut produire très directement, l'application immédiate que ça va donner. Alors, je ne sais pas s'il va poursuivre ses recherches ou si elles ont été concrétisées ou non. C'est qu'en fait, une personne transgenre qui passe devant une caméra pourrait être identifiée par la caméra comme transgenre. Même si c'est extrêmement subtil, en fait. Parce que la technique, elle va essayer de capter des éléments que, nous, on n'est pas capable de capter parce que c'est... Voilà, c'est complètement... C'est artificiel.
Ça va faire bip-bip, identité non-binaire, identité voilà. Non-binaire.
Exactement. Et donc, là, tu te retrouves à avoir un dispositif numérique qui va renforcer la grande dichotomie de genre en isolant, en stigmatisant les personnes transgenres, en étant capable de les repérer comme ayant une identité spécifique. Donc, tu ne seras pas... une nana, tu seras une personne trans qui est devenue une meuf, qui a été identifiée par le dispositif comme telle. Voilà, à partir du moment où tu as une répression sociale qui peut s'exercer via des techniques, alors j'imagine que le gouvernement américain peut très bien faire usage de ces caméras-là, de ces dispositifs de reconnaissance faciale pour stigmatiser des populations. Bon voilà, la technique va permettre de le faire. Et ça, c'est par le biais de cette captation de données, par les données qu'on génère, par leur travail de traitement. Et donc, ces identités numériques, elles renforcent des inégalités préexistantes, donc elles figent des identités, bon, mais elles peuvent aussi les produire. Là, tu vois, je ne sais pas ce que ça va pouvoir dire de la transidentité. Donc, par exemple, je ne sais pas, male to female. Quelle identité, quelle transidentité ça va produire, ce dispositif algorithmique-là? Parce qu'en fait, à quoi il va s'attacher exactement? Il va s'attacher à des traits physiques, probablement. Quels sont les critères qui vont entrer en jeu dans la machine pour sédimenter cette catégorie-là? Donc, à partir de là, voilà, on a des dispositifs qui vont fonctionner plus ou moins tout seuls, on ne sait pas trop comment, ou qui vont être pilotés par Google Alphabet et autres, ou par des agences plus proches et plus intégrées de l'armée, d'agences de renseignement, et qui vont non seulement confirmer et sédimenter et solidifier des inégalités et les identités qui vont avec, mais aussi potentiellement produire et redéfinir des identités. Alors, on voit juste les prémices de tout ça parce que c'est juste en ce moment que le numérique est suffisamment, a accès à suffisamment de données, qu'il y a vraiment un assemblage global de captation de données suffisamment fort pour qu'on commence à avoir des dispositifs, des algorithmes de traitement puissants. Mais ça risque d'être un problème en fait. C'est un sujet qui risque de s'imposer.
Eh bien, merci en tout cas pour nous avoir fait ce tableau du meilleur des mondes capitalistes, la surveillance de masse qui vient.
Évidemment, c'est pas le meilleur des mondes, mais on a des moyens pour lutter contre tout ça. Que cette fabrication d'identité, il y a sûrement plein de moyens de la déjouer, il y a plein d'outils pour échapper à cette surveillance-là. Je recommande juste pour des personnes totalement néophytes qui seraient intéressées par ces autodéfenses, le guide d'une association qui s'appelle le CECIL, C-E-C-I-L, le guide des aventuriers de l'Internet. C'est un ensemble de petites fiches très, très, très pédagogiques qui expliquent un petit peu les bases de la résistance numérique et qui ensuite leur permettra d'aller voir des choses beaucoup plus compliquées s'ils veulent creuser le domaine. Mais ça tient qu'à nous de résister à tout ça.
Bon, et ben, en tout cas, merci beaucoup Marco de nous avoir fait un exposé assez clair de ce que c'est que la surveillance de masse 2.0. Ça va avec la logique du capitalisme numérique, du capitalisme du 21e siècle, qui tend effectivement à collecter toujours plus de données sur nous. C'est presque une espèce d'accumulation de données, plus de l'accumulation du capital. Et cette logique d'accumulation de données perpétuelle commence à produire déjà un certain nombre d'effets, produit une surveillance de plus en plus forte, ne serait-ce que par la profusion de ces données que nous produisons. Et d'où l'importance d'en lâcher le moins possible.
Et oui, c'est un rapport social, un objet technique, c'est rien d'autre qu'un rapport social sédimenté. Donc, si on arrive à s'engager dans un rapport de force, on produira une technique qui accompagnera ce rapport de force, nécessairement. Et s'engager sur le champ de la technique, c'est aussi s'engager sur le champ des luttes sociales.
Bah, c'est une belle conclusion. Merci Marco.
Merci à toi.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.